Backstage, le podcast, dernière partie de cette diffusion en épisode consacrée à Pascal Bordet. Backstage, le podcast, ce sont Margot Delpierre qui est journaliste radio et Thomas Langlin, technicien supérieur du son. Et vous pouvez évidemment retrouver l'ensemble de leurs podcasts sur le site backstagelepodcast.com. Et donc nous allons entendre le quatrième et dernier épisode du podcast dédié à la costumière, Pascal Bordet, au micro de Margot Delpierre, sur un montage et un mixage de Thomas Langlin.
Dans votre livre, il y a cette histoire avec la culotte d'Annie Dupéret. Vous nous expliquez ?
Alors oui, on était quelques jours avant la première et c'était du 1830 et dans Colombes. Et Annie Dupéret, qui est devenue de mes meilleures amies, elle fait 1m78. Donc à un moment donné, elle devait être en culotte, les culottes 1830, les culottes blanches. Et j'ai fait les puces, j'ai fait les chiffonniers, j'ai fait les brocantes, j'ai cherché partout. J'ai jamais trouvé une culotte à sa taille parce qu'en 1830, on faisait 1m50. Et donc tout était trop court. Et au dernier moment, j'ai dit à Annie, je ne trouve rien à ta taille, donc je vais te la faire, cette culotte. Mais on était à 3 jours de la première, et moi, j'étais débordée parce que j'avais 60 costumes sur les bras. Et elle m'a dit, ok, eh ben, demain, on est dimanche, je fais ma culotte. Je lui ai acheté le tissu, elle a coupé sa culotte, elle a monté sa culotte. Elle me l'a rapportée le lundi au théâtre. J'ai fini par la broder à coups de les dentelles, les finitions, les petits trucages pour les changements rapides, etc. Et Annie, elle a été une partenaire merveilleuse. C'est une femme qui sait tout faire. Elle sait coudre aussi. Et voilà, c'était la culotte d'Annie Dupéret. Parce qu'on n'avait plus d'argent. On n'avait plus d'argent et c'était une chose introuvable. Il fallait le faire. Elle m'a aidée.
Il faut être inventif.
Faut trouver des solutions à tout, quoi. C'est toutes les secondes quand un acteur arrête la répétition et dit « Je peux pas rentrer en scène, j'ai pas eu le temps de finir de m'habiller en coulisses dans le noir. » Comment on fait ? Il faut trouver une solution pour se changer vite, pour se changer sans bruit, dans le noir, à toute vitesse, pendant que les autres se changent aussi. Il faut trouver des solutions pour rentrer avec le chapeau droit et pas de travers. Il faut trouver une solution. Et comment je fais quand je marche sur ma robe ? Il faut trouver des solutions.
Vous avez été récompensée aux Molières, 2 fois ?
Plus que ça, c'est-à-dire j'ai été nommée 11 fois, ce qui est un record, à l'époque où il y avait le Molière du costume uniquement. Donc c'était que sur mon travail. Je crois que c'était Molière d'amour, je crois que la profession m'aime beaucoup. Pour justement ma façon d'être avec les acteurs, ma façon de faire, qui est toujours une histoire d'amour. J'ai reçu 2 Molières, mais 11 nominations, c'est beaucoup. Et puis, j'ai eu tous les prix professionnels et jusqu'aux arts et lettres. Et cette année, je suis rentrée à la Bibliothèque nationale de France. Mes archives, mon travail, mes maquettes, mes peintures, ce qui est merveilleux que ce soit archivé pour l'éternité.
Vous avez été nommée 11 fois aux Molières. On parlait de la transformation de ce Molière, puisqu'en fait, il faut expliquer qu'avant, il y avait le Molière du créateur de costumes et la dénomination a changé.
Il n'y a plus de Molière du créateur de costumes. C'est un Molière visuel. Ça englobe décor, lumière, costume. Ce qui veut dire que ça ne veut rien dire. Parce qu'un costumier n'est pas décorateur, un décorateur n'est pas éclairagiste. Et regrouper les trois sous un seul Molière, qui récompense-t-on ? Enfin, je veux dire, voilà, c'est un raccourci, et ce qui est franchement dommage, parce que moi, je trouve que ça veut dire que ça fait disparaître chaque personnalité de créateur, chaque métier. Un costumier reste un costumier, un décorateur. Mais bon, voilà, ça n'existe plus comme moi, je l'ai reçu.
Être nommé quand même 11 fois au Molière, ça vous a fait quoi ?
Ça m'a stressée énormément parce que j'avais l'impression tous les ans d'être en compétition avec moi-même et qu'il fallait que tous les ans je sois meilleure que l'année d'avant. Et donc, ça a été beaucoup de joie, évidemment, mais beaucoup de stress, je dirais. Et la peur, j'avais extrêmement peur que ça m'empêche de continuer. Alors, pendant des années, j'ai caché mes Molières dans mon placard. Et je voulais pas les voir parce que quand j'allais travailler le matin, je me disais, mais ça met la barre tellement haut, il faut que tu sois encore meilleure, encore meilleure, encore meilleure. Alors, je sais que je veux être encore meilleure, mais me le rappeler tous les matins, donc bon, pendant des années, ça m'a fait ça. Après, j'ai accepté les récompenses en me disant, ça ne veut pas dire que tu te reposes sur tes lauriers. Une récompense est une récompense. Après, il faut... C'est vrai que le lendemain, il faut aller à l'école. Hein. Faut aller à l'école, faut reprendre son cartable, faut recommencer. Recommencer à zéro. Ça vous donne aucun droit à l'erreur. C'est la compétition. La compétition, c'est stressant pour moi. Et moi, j'ai fait un métier artistique parce que j'aime pas la compétition. Et ben là, elle y était.
C'est difficile à surmonter.
Pour tout le monde. La compétition, c'est une bataille. Ça veut dire qu'il faut être meilleur que l'autre, il faut être meilleur que soi, il faut être meilleur, toujours meilleur. Donc, oui, ça peut être stressant, oui.
En même temps, c'est une belle reconnaissance.
C'est la reconnaissance, oui, absolue. Mais oui, bien sûr, bien sûr. J'aurais jamais imaginé, quand j'ai démarré, que tout ce que j'aurais comme cadeau. Parce que ce sont des cadeaux merveilleux. La reconnaissance dans un métier artistique, oui, c'est une forme d'aboutissement. C'est la reconnaissance de ma profession, puisque les Molières, c'est un vote professionnel, pas public. C'est la profession qui vote. Donc ce sont les gens qui connaissent mon travail, qui le voient et qui me voient faire, qui m'ont récompensé, oui.
On parlait de vos débuts à 18 ans à l'Opéra Garnier. Si on remonte encore quelques mois avant ces 18 ans, à quel moment vous vous êtes dit « c'est bon, j'y vais, je vais à Paris, je tente ce métier ».
Avant 18 ans, je suis rentrée dans une compagnie théâtrale où j'ai commencé mes premiers costumes avec ma machine à coudre. Je me suis fait un atelier de fortune dans un coin et je m'étais fait un petit lit de camp pour travailler la nuit. Et j'étais pas majeure. Et donc, j'ai dû attendre 18 ans. Et le jour de mes 18 ans, je suis vraiment partie. Mais mes parents voulaient pas du tout que je fasse ça. Donc,
pourquoi ils voulaient pas ?
Parce que d'abord, ils savaient pas ce que c'était, je crois, par ignorance, par inculture. Et puis, par peur. Par peur de l'inconnu. Donc, ils m'ont coupé les vivres. Ils m'ont dit, si tu fais du théâtre, on ne donne plus d'argent.
C'est dur.
Ouais, mais ça ne m'a pas démontée. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée à l'opéra. Je suis rentrée avec un contrat d'apprenti au départ, et qui était un tout petit contrat qui me permettait de payer ma chambre de bonne. J'ai fait des heures supplémentaires et surtout, je me suis rendue indispensable pour qu'on ne me foute pas à la porte au bout d'un an. Et au bout d'un an, ils m'ont gardée. C'est moi qui suis partie après. C'est moi qui suis partie... Quand j'ai eu l'intuition que j'en savais assez pour me lancer, et quand très vite on m'a demandé de faire des costumes toute seule. Quitter l'opéra, c'était quitter une sécurité. Se lancer toute seule dans la vie avec mes premières affiches et mes premiers costumes, avec mon crayon et ma machine à coudre, sans savoir si le lendemain j'aurais du travail. Oh là, c'est un saut dans le vide. Là, ça fait peur. Là, c'est l'aventure. Là, c'est un gros risque. Ça pouvait ne pas marcher. Mais j'ai eu la chance d'être demandée tout de suite, très vite, très très vite. Et j'acceptais tout. Et quand j'avais pas assez de travail, je travaillais le soir comme habilleuse pour me faire de l'argent de poche. Et pour apprendre, et puis je me suis fait engager aussi dans des ateliers de sculpture, de peinture, pour travailler tout le temps, pour engranger, apprendre.
Pour quelle pièce vous avez créé vos premiers costumes ?
Marivaux, le jeu de l'amour et du hasard, et j'avais 17 ans.
C'est une belle pièce.
C'est une belle pièce. C'était bien de commencer avec Marivaux. Ça me suit, ça m'allait, ça m'a parlé tout de suite, j'avais tout de suite plein d'idées et je cousais la nuit et je cousais avec ce que j'avais, quoi. C'était une aventure, mais je peux pas dire que j'étais sûre de moi, mais j'avais l'intuition profonde que j'étais à ma place.
Là, on est dans votre atelier à Paris. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ce lieu spécial pour vous ?
Ce petit grenier, de rien du tout, j'ai mis 25 ans à le faire à ma taille. C'est-à-dire que chaque fois que j'avais un peu d'argent, je faisais un Velux. une échelle, une estrade, ma table, un fauteuil, un canapé. C'est-à-dire que cet atelier, il représente 25 ans de contrat. J'ai mis le chauffage quand j'avais de l'argent.
Parce qu'on est sous les combles, il faut l'expliquer.
Voilà, on est vraiment sous les toits, sous les toits, sous les toits. J'ai économisé pour le faire insonoriser, pour le rendre confortable, mettre du parquet, pour boucher les combles, pour pas avoir trop froid l'hiver et trop chaud l'été, pour trouver la lumière, la bonne lumière, les bonnes lumières, pour pouvoir peindre la nuit, coudre le jour, peindre le jour. Il est complètement sur mesure, cet atelier.
Et la lumière, c'est très important.
La lumière, c'est pour la peinture et il faut se lever avec la lumière. Et on ne peut pas peindre dans le noir. La lumière, elle est indispensable.
Votre particularité à vous, c'est que vous êtes costumière et peintre.
Eh oui, et peintre à la Maison des Artistes. J'ai mis des années pour rentrer à la Maison des Artistes, qui ne prend pas de costumière, qui ne prend que des peintres. Mais je suis rentrée quand j'ai commencé à peindre mes premières affiches de théâtre, ce qui m'a permis de rentrer comme peintre et d'y rester puisque je continue à peindre des affiches.
On n'en fait plus beaucoup des affiches peintes. De spectacles
peintes.
Non,
mais ma dernière est toujours à l'affiche de Kin, qui reprend au Théâtre de l'Atelier le 5 novembre. L'affiche, je l'ai peinte l'année dernière. Oui, c'est une affiche peinte. Eh oui.
C'est un travail que vous appréciez aussi beaucoup, la peinture ?
Ah oui, la peinture, c'est toute une vie. C'est vraiment toute une vie. C'est un accompagnement. C'est faut tous les matins devant la page blanche, avec son crayon, avec ses peintures, il faut arriver à recréer, à se dépasser, à réinventer. Et c'est un travail quotidien de la main et de l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut jamais arrêter. Jamais. Ça ne prend pas de vacances.
Sur quoi vous travaillez alors en ce moment ?
Je viens d'illustrer pendant 6 mois un livre de fables qui va sortir au mois d'octobre, qui s'appelle Fablerie. Et en même temps, je répète la reprise du Kin d'Alexandre Dumas au Théâtre de l'Atelier le 5 novembre. Donc j'ai un changement de rôle, j'ai remise en état des costumes, j'ai re-répétition avec les costumes. Voilà, c'est vraiment un spectacle avec des chapeaux, des gants, des capes, des jupons, des corsets, des ombrelles. Donc c'est beaucoup de travail très minutieux pour que les costumes restent neufs alors qu'ils ont déjà joué 85 fois.
Vous allez continuer de parler au public comme aux jeunes, aux étudiants de votre métier ?
Oui, je le fais encore chaque fois qu'on me demande et même chaque fois que je le propose dans les écoles, dans les cours de théâtre, dans les collèges. Et je le fais avec mon âme et je le fais avec ma passion et je le fais sans argent. De même que mes livres. Mes livres, chaque fois que je fais un livre, je perds mon assurance vie. C'est-à-dire que je mets de l'argent dans l'édition. Parce que c'est une mémoire et puis parce que c'est nécessaire. Je suis la seule costumière qui fait des livres à ce jour, depuis maintenant plus de 13 ans. Et c'est très anxiogène et ça prend des années pour faire un livre. Mais c'est ce qui reste de l'éphémère, puisque le théâtre est un art éphémère. Mais j'archive mes aquarelles, j'archive pour faire des livres et pour que ça reste en mémoire, qu'on se souvienne et qu'on apprenne et que ce soit un instrument de travail. Parce que moi, quand j'ai démarré, quand j'étais jeune, très jeune, eh bien, je peux vous assurer qu'il n'y en avait pas de livres. Il y avait des planches noires et blancs en allemand. Eh ben, c'était pas facile. Je me disais, mais qui va me diriger ? Qui va m'apprendre ? Comment on fait ? Comment je fais ? Et comme j'ai appris en faisant et j'ai appris seul ou j'ai appris des autres, il a bien fallu que tout ça, ça existe, ça reste. Il faut que ça reste pour les générations qui arrivent, pour les jeunes qui débutent et qui viennent me voir en disant « Mais je sais même pas si j'ai envie de faire ce métier. Est-ce que j'en ai envie Est-ce que vous pouvez me dire si j'ai envie de faire ce métier ?» Il faut bien que je trouve les mots pour leur dire. Et les images, donc les livres.
Merci Pascal Bordet.
Je vous en prie.
Backstage, un podcast présenté par Margot Delpierre.
Merci encore à Pascal Bordet, invité de Backstage, un podcast monté et mixé par le couturier de cette émission, Thomas Langlin.